Allô, allô, je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa, je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André du mouvement Yokata Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Après la récente mission de quelques membres du gouvernement central dans la province du Bas-Congo sur la situation qui prévaut au port de Matadi dans cette province, les directeurs provinciaux, 22 inspecteurs et 45 contrôleurs de la DGDA ont été suspendus de leurs fonctions par le ministre des Finances. Il leur est reproché la contre-performance et la mégestion dans l'exercice de leurs fonctions. Notons par ailleurs les différents partenaires qui recourent au service public. Le public au port de Matadi avait indiqué à la délégation gouvernementale plusieurs mauvaises pratiques qui ont élu domicile à ces ports, notamment la duplication des procédures contraires au guichet unique ainsi que le paiement des taxes hors de ces guichets. Quel serait pour vous l'impact de ces mesures de suspension sur la lutte contre la corruption en RDC? Nous en parlons avec Ernest Mpararo, coordinateur de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO. J.R. Lungembo, Titi Mputu, Jean-Claude Nsiala et Hippolyte Kapanga sont à la réalisation de cette émission présentée par Fierro et la Meji sous la supervision de Ben Kabamba, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Fierro et la Meji.
Nous parlons de la lutte contre la corruption en nous intéressant à la décision du gouvernement central à travers le ministère des Finances de suspendre les directeurs provinciaux de la DGDA, 22 inspecteurs et 45 contrôleurs. Cela est arrivé après la récente mission de membres du gouvernement qui se sont rendus dans cette province pour se rendre compte des difficultés qui rencontrent les ports de Matadi. Il est reproché à ces agents la contre-performance, mais aussi à de la mégestion, parce que bien sûr les partenaires qui recourent au service public au port de Matadi ont indiqué à la délégation gouvernementale qu'il y a plusieurs pratiques aujourd'hui qui ont élu domicile à ces ports, c'est notamment la duplication des procédures contraires au guichet unique qui a été installé et le paiement des taxes hors de ces guichets. Pensez-vous que ces mesures de suspension des agents et fonctionnaires de la DGDA et d'une manière globale peut-il contribuer à la lutte contre la corruption? Vous pouvez nous appeler au 081-890-4339 pour intervenir en direct. D'ailleurs, tout à l'heure, là, nous aurons M. Gabriel Mwepou de la DGDA dans cette émission qui pourra nous... voilà, M. Gabriel Mwepou est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la mesure qui a été prise par le ministre de Finances portant suspension d'un directeur provincial de la DGDA, y compris aussi d'autres personnes comme des inspecteurs et contrôleurs. Alors, bien avant d'aller plus loin, pourrions-nous savoir quels sont les griefs qui ont été reprochés à ces agents de la DGDA?
Bon, disons que comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Ministre délégué chargé des Finances avait fait une mission d'inspection d'abord au Katanga. Il a poursuivi la même mission d'inspection au niveau du Bas-Congo. Et à ce stade, donc au niveau du Bas-Congo, il a constaté qu'il y avait un problème de contre-performance par rapport aux assignations de l'année 2012. Après avoir analysé les statistiques qui étaient à sa disposition en termes de tonnage, notamment l'évolution du tonnage et l'évolution des recettes, il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un problème. C'est ainsi que, à titre préventif, il a ordonné que, au niveau de la direction générale, que monsieur le directeur général puisse procéder à la suspension du directeur provincial pour besoin d'enquête. Donc c'est une suspension pour besoin d'enquête. Suite à la contre-performance qui a été observée au niveau de la direction provinciale du Bas-Congo. Alors, en ce qui concerne les autres cadres de la province, donc il y en a 68, le cadre concerné, évidemment, avait atteint l'âge de 3 ans. plus de trois ans en ce qui concerne l'affectation dans la province du Bas-Congo. Comme vous le savez, dans notre plan anticorruption, le plan anticorruption de la DGDA, il est prévu des rotations régulières. Donc, il a estimé qu'il fallait, comme il était en mission sur place, que ces agents soient relevés, n'est-ce pas, de leurs fonctions et qu'ils soient mis à la disposition de notre direction des ressources humaines pour des affectations ultérieures ailleurs. Donc, ce qui a été fait ce qui a été pris comme décision en ce qui concerne les cadres et agents de la province du Bas-Congo. Mmh.
Mais quand on parle des 1064, il y a une soixantaine de personnes, si on peut dire ainsi, suspendues. Alors, sur terrain, comment se fait le travail? Parce que ces gens sont en train de travailler, chacun dans sa responsabilité. Et qu'ils soient suspendus, plus de 100 personnes, au niveau de la DGDA, comment les choses sont-elles organisées pour que le travail puisse continuer à ce niveau-là?
Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas, en ce qui concerne le 60, il n'y a que le directeur provincial qui a été suspendu préventivement pour besoin d'enquête, suite à la contre-performance observée.
Mmh, ok. Et les autres personnes, il faut les relever, c'est ça?
Alors, les autres ont été relevés tout simplement.
Oh, ok.
De leur fonction, pour qu'ils soient mis à la disposition de la direction des ressources humaines, en attendant leur affectation ailleurs, parce qu'ils ont atteint l'âge de 3 ans, que nous estimons comme étant l'âge maximal pour... n'est-ce pas, éviter des collusions ou des complicités entre les opérateurs économiques et les agents. Donc, c'est des agents qui devaient faire l'objet d'une rotation.
Ok.
Et le ministre a estimé qu'il fallait déjà qu'on les relève en attendant qu'on puisse faire une rotation plus tard.
Et vous avez dit que le directeur, lui, il a été suspendu. Il faut d'abord, il faut des enquêtes. Mais nous pensons bien, parce qu'on sait, quand on a procédé à l'installation, si on peut dire ainsi, du guichet unique, hein, plusieurs personnes avaient pensé que cela pouvait contribuer à accroître effectivement les recettes et aussi lutter contre toutes les autres pratiques et les systèmes parallèles qui pouvaient s'installer au niveau des différents services. Pourrions-nous dire que avec la baisse des recettes par rapport au tonnage, qu'il y a quand même des gens qui réussissent à contourner le mécanisme placé pour accroître les recettes et pour détourner effectivement ces recettes du trésor public?
Bon, disons que le guichet unique tel qu'il a été institué au niveau des Matadi ou même actuellement dans les postes frontaliers, c'est essentiellement un guichet unique de paiement. Donc c'est un guichet qui permet à ce que les opérateurs économiques puissent payer en un seul endroit, au même moment et au profit de tous les intervenants, les droits et redevances dues. Mais on ne peut pas dire que le guichet unique garantit totalement contre les éventuelles fraudes. C'est-à-dire il peut y avoir de ça des fraudes. En ce qui concerne notamment le guichet unique, quand nous disons qu'il y a eu amélioration au départ des recettes, quand on a installé le guichet unique, c'est notamment en ce qui concerne le fraude sur les preuves de paiement. Parce que quand on vous oblige d'aller payer obligatoirement auprès d'une banque, et que cela puisse faire, que la banque à la fin de la journée puisse ventiler les différentes perceptions ou redevances au profit des différents intervenants, le guichet unique permet d'éviter ce qu'on appelle la fraude en matière de fausses preuves de paiement. Mm-hmm. Vous savez que dans les postes frontaliers où le paiement se fait dans les caisses manuelles, donc en dehors des banques, il y a possibilité pour les agents d'appliquer ce qu'on appelle le jeu de double carbone. Donc quelqu'un peut avoir payé 10 000 dollars, mais au lieu de reverser les 10 000 dollars totalement au trésor, on reverse peut-être 6 000, les 3 000 sont détournés. Mais avec le guichet unique de paiement, on a réussi à lutter notamment contre la fraude en matière de fausses preuves de paiement. Mais il y a d'autres fraudes qui peuvent se passer dans ces postes frontaliers. C'est notamment le cas de l'évaluation. Donc, si quelqu'un a acheté une marchandise qui coûte, par exemple, 10 000 dollars, au lieu de la déclarer à 10 000, la déclare à 7 000, donc, tout naturellement, le guichet unique ne peut pas permettre de détecter en temps réel cette fraude-là. Évidemment, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place, notamment qui concernent l'échange de données. Donc, au niveau de la douane, par exemple, on échange des données avec Bivac. Ça se fait actuellement au niveau de guichet unique. Mais il y a des gens qui peuvent toujours contourner ces mécanismes-là. C'est pour cela, d'ailleurs, il est prévu qui régulièrement qu'il y ait des réconciliations de données entre BIVAC et la douane, et notamment l'OCC, pour éviter qu'il y ait ce type de contournement, ce type de fraude.
Alors, on vous garde en ligne, M. Gabriel Mou, pour le temps d'écouter quelques auditeurs. Nous avons aussi avec nous ensemble M. Ernest Impararo. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi comme nous avons introduit cette émission et vous êtes de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Vous en parlez de temps en temps. Il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place. Quand on regarde un geste qui est posé, par exemple, que ce soit au niveau du pouvoir public, au niveau de n'importe quelle structure dans la direction de lutte contre la corruption, au niveau de la Ligue, par exemple, comment vous accueillir cela.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au niveau de la LICOCO, nous accueillons positivement cette suspension du directeur provincial de la DGA au Bas-Congo. Nous soutenons l'initiative seulement. Nous demandons au ministre de ne pas se limiter seulement à la DGDA, étant donné que la contre-performance dans la mobilisation des recettes se retrouve à toutes les régies financières, à la DGI et à la DGRAD. C'est comme ça que nous demandons au ministre de continuer avec cette même politique pour effectivement faire la même chose à la DGI, faire la même chose à la DGRAD.
Et là, c'est votre souhait, mais quelle peut être votre part de responsabilité ou soit d'action dans cela? Parce que plusieurs fois, on a déjà vu des gens suspendus, on a vu deux fois les gens sur les documents dit qu'ils sont mis à la disposition de la justice, mais bon, curieusement, ça ne continue pas. Mais au niveau de vous, la société civile, quelle peut être votre part d'action pour accompagner ce qu'effectivement le pouvoir public fait dans ces domaines de lutte contre la corruption?
Effectivement, à ce qui nous concerne, nous avons des systèmes, nous dénonçons tous les actes de fraude, tous les actes de corruption, tous les actes de concussion, nous les dénonçons auprès du pouvoir public et c'est au pouvoir public que revient la responsabilité de prendre des sanctions. Mmh. Et c'est ce qui amène, lorsque le pouvoir public ne prend pas des sanctions, nous disons que le pouvoir public, effectivement, il est responsable ou il est complice de ces gens qui s'adonnent à la corruption au détriment du bien public. Un exemple patent. Vous aviez suivi, on est en train de réhabiliter des routes, on a présenté le rapport ITIE 2010 plutôt, et dans le rapport 2010, il y a une annexe qui nous donne le coût des travaux des routes qu'on est en train de réhabiliter sur la ville de Kinshasa. Un seul exemple, le palais du peuple, pour la réhabilitation, ça nous a coûté 25 millions de dollars. Et nous, au niveau de la LICOCO, nous avons écrit au Premier ministre pour dire, écoutez, ces coûts-là, c'est très 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 cher par rapport à l'œuvre, 25 millions, c'est tout un bâtiment qui peut contenir tous les bureaux des députés et des sénateurs, et nous avons demandé qu'il y ait un audit approfondi, technique, pour effectivement et réévaluer le coût exact de cette réhabilitation. Deuxième exemple, vous vous souvenez que dans les temps, il y a sous le gouvernement Mouzito, on avait demandé à ce que les parlementaires puissent payer les impôts sur les rémunérations professionnelles. La DGI a taxer ces impôts-là, mais les parlementaires, tous, toutes tendances confondues, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ils sont partis voir Mouzito l'ont menacé pour le faire partir du gouvernement. Mouzito ayant peur, n'ayant pas la maturité politique, devrait accepter de démissionner parce que tout le monde doit payer les impôts. On ne peut pas seulement demander au petit peuple de payer et les parlementaires, les gouverneurs, les ministres, les ADG ne payent jamais. Ça, ce sont des cas que nous dénonçons, que nous disons au pouvoir public. Mais si le pouvoir public ne fait rien, cela n'incombe pas à la société ou à la société civile.
Voilà, on va revenir à vous. Nous allons faire cet échange pour voir comment rendre tout cela efficace et pour lutter contre la corruption. Nous avons aussi les auditeurs qui sont en ligne. Serge est à Mungwalu, en province orientale. Edgar est à Kananga, au Kassa occidental. On commence avec vous, Serge. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à tous les invités qui sont avec vous sur le plateau.
Vous avez toujours suivi à plusieurs émissions, Parole aux auditeurs, on est revenu sur la problématique de la lutte contre la corruption avec autant de propositions, mais là nous avons cet exemple qui vient du gouvernement qui pense qu'il faudrait aller plus loin. Vous avez suivi notre compatriote avec qui nous sommes dans ce studio, Ernest Impararo, qui pense qu'il faut aller plus loin au-delà de la DGDA dans d'autres secteurs, s'il faut suspendre et mener des enquêtes par rapport à la lutte contre la corruption. Pour vous, pensez-vous que cela est un signal fort et que si cela est étendu, ça peut être mieux que mal résoudre le problème de la corruption en RDC?
Merci beaucoup, M. Pierrot. D'entrée de jeu, M. Pierrot, permettez que je rejoins un peu l'analyse de Ernest Mbarao qui vient, n'est-ce pas, de dire qu'il faut qu'on puisse voir comment résoudre les mal par la racine, M. Pierrot. C'est vrai, il faut pas seulement considérer la DGDA qui a réalisé cette contre-performance, mais je me dis, M. Pierrot, si du moins toutes les régies financières peuvent prendre là, ça pourrait être une très bonne chose. Mais concrètement, M. Pierrot, comment pourrait aller à mon humble avis? Parce que si du moins les régies financières mettent des dispositions plus ou moins optimales, ça pourrait aider à ce qu'aujourd'hui la corruption puisse quitter ce niveau où nous avons atteint. Parce qu'on se dit, M. Pierrot, il y a déjà un système mis à place par ceux-là qui travaillent au niveau de ces régies financières. Quand on y va, c'est bien sûr avec ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans des guichets uniques, qui fait qu'aujourd'hui, on enregistre au moins de fuites importantes des recettes. Et donc, M. Pierrot, je crois que c'est une théorie, si aujourd'hui on peut le dire ainsi, la théorie des pots sans l'impôt. Parce que une fois que les gens viennent avec, donc on vient prélever des taxes au niveau des contribuables, on se rend compte qu'au niveau des trésors publics, certains n'atteignent pas la destination. Et donc, M. Pierrot, il faut que ceux-là qui se retrouvent dans les régies financières, mais aussi les peuples congolais, ceux-là qui veulent à tout prix que nous puissions atteindre un niveau acceptable de la croissance économique, de développement, pour que nous puissions éviter que des fuites importantes de recettes qu'ils sont en train de perdre de par la corruption qui ternissent l'image de notre pays par rapport à cet état des choses.
Merci Serge. Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des dispositions optimales au niveau des régies financières hein, pour voir comment démanteler s'il n'y a par exemple des réseaux qui agissent en connivence entre les uns et les autres pour voir comment résoudre ces problèmes et lutter contre la corruption. Merci beaucoup Serge de votre point de vue des Mungwalu en province orientale. À Kananga, Edgar, vous êtes avec nous. Bonjour. Edgar, vous êtes avec nous. On a perdu Edgar de Kananga. On pourra peut-être le retrouver plus tard. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous revenons à vous directement, Monsieur Gabriel Mouepou. Nous avons là deux cas, un cas d'une suspension et les autres qui doivent être relevés. Mais pour les gens qui doivent être relevés, parce qu'il y a ce problème de contre-performance, c'est pas seulement... Voilà, qui peuvent être permutés. La contre-performance, c'est pas seulement le problème du directeur provincial, c'est l'ensemble de la structure de tous qui travaillent dans la province. Y a-t-il aussi des enquêtes par rapport à toute la structure qui travaille au niveau de la province du Bas-Congo, et quand bien même les uns pourront peut-être quitter la province pour être affectés ailleurs, y a-t-il des enquêtes qui vont suivre là, ils vont aller pour savoir comment ils vont travailler, et des fois des sanctions qui peuvent suivre pour rendre cela plus efficace, et que cela puisse aussi donner confiance aux différents partenaires hein, qui utilisent les services de la DGDA.
Oui, je pense qu'en ce qui concerne la lutte contre la fraude et la corruption, nous avons un programme qui prévoit des actions à mener. Ces actions portent notamment sur le renforcement des sanctions positives et négatives. Donc, quand il y a des agents qui se comportent bien, s'il y en a qui réalisent des assignations comme cela leur est communiqué, on peut les maintenir en poste. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, on peut le roter comme on est en train de le faire pour le cas du Bas-Congo. Mais en dehors de cela, comme vous l'avez demandé, en ce qui concerne notamment le cas du Bas-Congo, le ministère des Finances va diligenter, je pense dans les jours qui suivent, une enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Bas-Congo pour que, en dépit du fait que le tonnage a augmenté, les recettes ont plutôt baissé. Donc les enquêtes sont prévues. Et même chez nous, à la DGDA, nous le faisons régulièrement. Et il nous arrive à plusieurs reprises de pouvoir sanctionner les agents et même de les traduire en justice. Nous avons eu des cas où on a eu à révoquer les agents et quand nous voyons que c'est un cas de flagrance, nous saisissons la justice. Donc les enquêtes se font, non seulement comme nous venons de le dire pour le cas qui s'est passé au Bas-Congo, nous les faisons aussi régulièrement. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la lutte contre la fraude, nous échangeons régulièrement avec les différents organismes qui opèrent aux frontières. Nous avons, par exemple, parlé du cas de Divac en ce qui concerne la sous-évaluation. Mais il y a aussi les échanges avec l'OCC, notamment en ce qui concerne le prix. Il y a des échanges qui se font avec le GFREM pour avoir les niveaux de fraude. Mais aussi, toute personne qui a une information sur la fraude, la loi prévoit ce qu'on appelle les aviseurs. Je voudrais par exemple ici saluer M. Ernest Mpararo, qui est dans les pieds avec vous au studio, avec qui nous sommes en constante relation. Ça fait quelqu'un que je reçois régulièrement, par exemple chez nous à la douane. Il vient souvent pour suivre des dossiers relatifs à tel ou tel autre aviseur, de la même manière qu'il vient chez nous pour nous donner des informations, qu'il a des informations sur les cas de fraude. Donc nous sommes une organisation dont la mission principale est la mobilisation des recettes, mais pour y arriver, justement, il y a des dispositions que nous prenons en termes de lutte contre la corruption,
voilà, merci.
Et aussi de lutte contre la fraude.
Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Moipou. Je crois bien, on va écouter deux auditeurs. On va vous accorder la parole juste aussi pour conclure avec vous, parce qu'on a été d'ailleurs avec vous encore hier pour 1h15. On a dû encore aborder ces questions à long et à large, mais on a élargi aujourd'hui dans l'angle de la lutte contre la corruption. On écoute Jean-Pierre qui est à Issiro, en province orientale. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, Jean-Pierre, pour que toutes ces mesures puissent être rendues plus efficaces sur terrain dans la lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous proposez par exemple, Jean-Pierre?
Oui, bon, d'abord, nous commençons par dire que la corruption, de la manière que la corruption a évolué dans notre pays, ça a fait un seuil vraiment élevé, au point qu'il faut vraiment des actions importantes pour éradiquer ou pour diminuer les taux aussi élevés de la corruption dans notre pays. Comme Ernest l'a dit, l'action qu'on vient de prendre est vraiment un goutte d'eau dans l'océan. Je sais qu'il a dit de manière un peu plus diminuée, avec beaucoup de respect, mais nous savons que notre gouvernement n'a pas encore pris cette voie-là de combattre la corruption, et nous ne les sentons pas encore. Mais cette mesure qu'on vient de prendre pourrait avoir de l'impact, mais si ça se faisait de manière un peu plus généralisée. On l'a fait dans un secteur, on ne sentait pas accompagné des mesures juridiques, ça ne sent pas accompagné, donc on ne sent pas vraiment, on sent pas vraiment attaquer la corruption. Une personne qu'on sent qu'il a volé ou qu'il a détourné, on doit les suivre sur les plans juridiques, on doit suivre, les plans juridiques doivent suivre, et on sent que ces personnes sont arrêtées, on sent qu'ils sont condamnés, ou bien ils promettent de restituer les biens de l'État qu'ils ont détournés. Alors, ce n'est que par cette manière que nous commencerons à combattre la corruption dans notre pays. Parlons par exemple de notre district dans les Hautes-Ouélées. Nous avons beaucoup de sociétés minières qui sont en train d'exploiter. Mais vous allez voir que les engins qui sont en train de travailler là, ils ne font qu'exercer la corruption comme nous le faisons dans les autres services de l'État. Pour qu'ils puissent augmenter, pour qu'ils puissent avoir des promotions, il faut qu'ils puissent laisser des mois de salaire à son supérieur pour qu'ils puissent avoir des promotions. Et ces sociétés même, pour qu'ils puissent, pour qu'ils commencent à travailler, vous allez voir qu'en coulisses, ils vous disent non, il y a telle autorité qui est devenue actionnaire, tout cela. Donc vous sentez que hein, même les juges, donc le gouvernement peut être parfois jugé parti, ou certains leaders du pays peuvent être parfois jugés parti dans ces affaires. Donc on ne sait pas où ça prendre, mais il faut des actions pour essayer de diminuer la corruption.
Merci Jean-Pierre. Hein, vous avez dit que vous pensez que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais ce qui est important dans votre propos, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une chronologie, si je peux dire logique. Hein, quand on découvre par exemple quelqu'un, on fait des enquêtes, il faut qu'il y ait une suspension, qu'il y ait poursuite judiciaire, arrestation s'il le faut, mais aussi restitution si la personne vraiment, les enquêtes prouvent que cette personne a détourné les deniers publics, il doit restituer cela au trésor public. Et vous voulez avoir des actions fortes comme ça qui peuvent vraiment agir, parce que vous pensez que la corruption atteint des proportions importantes. Nous avons Franck qui nous appelle de Vienne. Allô? Oui, rapidement, il y a beaucoup d'auditeurs. Hein,
je voulais demander ceci à Ernest. Qu'est-ce qu'au niveau de la lutte contre la corruption, ils sont en train de faire pour, par exemple, contrôler les biens que les agents de l'État achètent qui n'est pas proportionnel à leur salaire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour... Donc, c'est ça, enrichissement illicite qui s'est fait au niveau de beaucoup des services qui travaillent dans les services des recettes de l'État. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement?
Voilà. Oui, Jean-Pierre, vous avez dit qu'il faudrait que la Likoko nous dise, hein, par rapport à l'enrichissement illicite, hein, quelqu'un qui touche autant, mais on sait qu'on le voit avec beaucoup de biens, meubles, des immobiliers, tout ça. On va voir avec Ernest Impararo tout à l'heure. Le temps d'écouter Franck qui nous appelle de Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les invités.
Vous avez suivi, quelles sont les mesures d'accompagnement plus efficaces, hein, qui peuvent rendre, en fait on a besoin de résultats dans la lutte contre la corruption, eu égard à ce qui s'est fait, les décisions en mesure conservatoire, qu'est-ce qui peut accompagner ces mesures pour que cette lutte puisse être plus efficace?
Merci beaucoup pour le choix de ce thème. Et aussi, merci au ministre pour sa décision, si ça peut faire quelque chose. Mais Pierrot, vous savez que dans un pays, chez nous en RDC, la corruption a atteint des proportions indescriptibles. Elle est devenue pour beaucoup de citoyens comme un modus vivendi. Puis, nous devons pas seulement nous contenter d'une telle décision, mais nous devons aller chercher à comprendre pourquoi beaucoup de citoyens congolais se laissent-ils corrompre. Moi, personnellement, j'ai toujours dit où j'ai dit, je peux encore me référer à ce que j'avais dit la fois passée en 2009 sur vos ondes, que dans un pays où il y a des inégalités au niveau de la politique salariale, nous savons qu'il y a des citoyens qui gagnent jusqu'à 10 000 dollars, il y en a qui arrivent à ne pas avoir même 100 dollars le mois, mais c'est difficile, on expose déjà les citoyens à une certaine forme de corruption. Alors moi, à ce niveau-là, j'ai dit qu'il y a deux formes de corruption dans notre pays. Mmh. Il y a une corruption pour les uns, pour maintenir le cycle, le standing de leur opulence qui n'est pas mérité. Des gens qui gagnent 10 000 dollars jusqu'à... Ils peuvent se laisser corrompre pour maintenir leur standing d'opulence. Il y a aussi des gens qui n'ont même pas 100 dollars le mois. Un papa qui a 8 enfants, avec des loyers, avec la scolarité, avec tout ce à quoi on doit faire face. Donc, il est un peu exposé à la corruption. Alors, pour lui, pour ce dernier, je trouve que c'est une corruption de subsistance. Mm-hmm. Alors, on peut suspendre un groupe de gens, mais la corruption va continuer. On va suspendre à Matadi. Mais la corruption est aussi appliquée au Bichimobila. La corruption est aussi appliquée à l'aéroport d'Ingili. La corruption est appliquée à la SNEM, à la Régie des Eaux. Dans tous les bureaux de l'État chez nous, il y a la corruption. Mais si on suspend un groupe de citoyens, qu'est-ce que ça va résoudre? Et si on suspend, sans toutefois par réponse, chercher à équilibrer les salaires des citoyens, mais ça n'aura pas de fait. Moi, je crois qu'avant de parler de mesures, il faut d'abord chercher à donner des conditions de vie à tout le monde. Quand on aura repensé les conditions de vie, la politique salariale, c'est alors qu'on peut arriver maintenant à combattre la corruption. Mais tant qu'il y a autant d'inégalités au niveau de la politique salariale, je crois qu'on risquerait de déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul.
Merci.
On va suspendre aujourd'hui dans le Bas-Congo, demain on ira dans le Katanga, après demain on revient dans le Kasaï. Finalement, on ne va pas maîtriser ce phénomène de la corruption. Mmh. Et la corruption a atteint des proportions indescriptibles. Je crois que c'est même plus que la mafia russe italienne. On n'arrive plus à comprendre. Des citoyens congolais se laissent corrompre, des citoyens congolais sont chez eux, mais il y en a là des étrangers qui viennent faire la loi parce qu'ils ont des parents congolais qui sont là pour mater les citoyens congolais.
Merci beaucoup Franck. Vous pensez que la lutte contre la corruption, c'est pas seulement aussi le fait de pouvoir suspendre les uns et les autres, hein, mais il faut des mesures globales d'accompagnement comme la lutte contre les inégalités sociales, l'équilibre salarial par exemple, l'amélioration des conditions de vie de ses agents et fonctionnaires. Cela peut rendre plus efficace la lutte. Sylvain, vous êtes à Kinshasa, à garder la ligne, on va revenir à vous. Le temps aussi de pouvoir écouter notre invité qui nous sommes dans le studio, et puis après on va accorder la parole à Gabriel Mouepou pour pouvoir les libérer. Sylvain, vous gardez la ligne.
Parole aux auditeurs.
Ernest Pararo, vous avez suivi les uns et les autres. Il y en a qui pensent que tout cela doit passer aussi dans une politique globale de la lutte contre les inégalités sociales. C'est ce qui peut rendre plus efficaces les mesures comme celles qui ont été prises au niveau du ministère des Finances par rapport à la DGDA. Mais aussi à un auditeur qui a voulu savoir à votre niveau, qu'est-ce que vous faites par rapport à l'enrichissement illicite, s'il faudrait utiliser les termes. On peut voir aujourd'hui quelqu'un s'est procuré des biens qui sont au-delà de peut-être de ce qu'il est en train de gagner. Et au niveau de la Likoko, qu'est-ce que vous faites?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de l'auditeur qui nous a posé la question de savoir ce que nous faisons à ce qui concerne l'enrichissement illicite des agents de l'État. Primo, vous vous souvenez que sous le gouvernement Mouzito, nous avions dénoncé des cas d'enrichissement illicite, mais le gouvernement ou le pouvoir judiciaire n'avait absolument rien fait. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, c'est à eux de répondre sur cette question. Et cette année, vous avez suivi le député provincial Jekoko qui avait dénoncé dans la télé, à la presse, dans le média sur place ici, l'enrichissement, les maisons et tout ce qu'il a dit en ce qui concerne le Premier ministre. La constitution de la RDC demande aux responsables politiques, dès qu'ils entrent en fonction, de déclarer leurs biens et dès qu'ils sortent en fonction, de déclarer leurs biens. On sait que la plupart des ministres déclarent leurs biens en entrant en fonction, mais en sortant, ils ne déclarent pas. À qui la faute? J'espère que c'est au niveau du parquet général de la République qu'incombe cette, ou à la Cour suprême, qu'incombe cette responsabilité de vérifier qu'à la sortie, ces gens-là ont amassé des biens illicites et justifié pourquoi ils en ont amassé. En ce qui concerne notre frère qui est à Vienne, effectivement, la Constitution demande à ce que l'État puisse garantir un salaire décent à tous les agents publics. Or, jusqu'à présent, le directeur de la douane qu'on a suspendu, il a 80 000 francs congolais. Est-ce que c'est un salaire décent? Je ne le pense pas. Or, aussi longtemps que le gouvernement lui-même ne garantit pas, c'est que le gouvernement viole la loi. Et si le gouvernement viole la loi, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit les chasser aussi. On doit les suspendre. Le ministre des Finances qui doit donner, ou le ministre des Budgets, le gouvernement qui doit donner des salaires décents, ne donne pas. Mais il demande, en même temps, aux gens qui ont un salaire indécent, de mobiliser des recettes. Ah, moi, je me dis que c'est paradoxal. Mm-hmm. Ce qui fait que, nous, au niveau de la Likoko, nous dénonçons, nous portons plainte, nous rencontrons le gouvernement, nous rencontrons des ministres, nous rencontrons des parlementaires, nous leur disons, nous les sensibilisons, nous avons fait passer des sketchs de théâtre à la télé pour effectivement montrer aux gens les conséquences de la corruption, mm-hmm. pour montrer aux gens la corruption, comment est-ce qu'elle est en train de tuer tout le tissu social de la population, tout le tissu populaire de la nation. Mm-hmm. Vous vous souvenez, il y a des crashs d'avions, l'avion de CA qui vient de s'écraser à Goma, c'est daté de 1957. Ils ont reçu des permis d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'ils ont corrompu les agents de l'aviation civile pour continuer à exploiter un aéronef qui date de 1957. Non, ça ce sont des conséquences de la corruption. Aussi longtemps que le pouvoir public, à travers les chefs de l'État lui-même, il ne prend pas à corps et à bras cette problématique, je suis sûr et certain que même si nous, au niveau de la société civile, mm-hmm. nous pouvons crier, mais c'est au gouvernement, au chef de l'État, de prendre à corps cette problématique-là. Mm-hmm.
Voilà, nous, Sylvain et Arsène, gardez la ligne. On va accorder la parole à notre deuxième invité qui est avec nous sur les antennes, Gabriel Mouepo, avant de pouvoir les libérer. Nous revenons à vous, monsieur Gabriel Mouepo. Vous avez suivi ces cris d'alarme, on peut dire ainsi, notre ami Ernest Pararo par rapport à ce que les agents et fonctionnaires de l'État touchent. Mais pensez-vous que les mesures peuvent être efficaces s'il n'y a pas amélioration des conditions de vie des travailleurs? N'est-ce pas qu'on peut, comme l'a dit notre ami Franck de Vienne, on peut leur demander plus, mais dès lors qu'ils vont se retrouver dans une certaine précarité, s'il faudrait utiliser les termes, ils seront tentés de pouvoir créer des mécanismes pour, si on peut dire, provoquer une évasion fiscale, et là on risque de faire un pas en avant, mais parce qu'ils vont toujours être dans les mêmes conditions et ils vont encore plonger, nous parlons de la DGDA bien sûr, et on risque de vivre encore des cas de contre-performance. À ce niveau-là, quels sont les efforts efforts qui sont faits par rapport à l'amélioration des conditions de vie de ceux qui sont au niveau de la DGDA pour éviter qu'ils ne puissent pas tomber dans la tentation, monsieur Gabriel Mwepo.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas, comme disent les Français, garantir la vertu sans un minimum de bien-être. Ça, c'est vraiment une condition que nous devons remplir si nous voulons que nos employés puissent produire plus. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'existe pas au monde un salaire qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude. Ça n'existe pas. Parce que, vous savez, chez nous, à la douane, ça dépend des envois qui sont manipulés. Mm-hmm. Quelqu'un peut venir avec un conteneur sur lequel on peut payer, par exemple, le droit de douane de 100 000 dollars. Donc, à ce monsieur-là, même si vous lui payez 5 000 dollars, même si vous lui payez 10 000 dollars, si le fraudeur qui devait payer à l'État 100 000 dollars propose un montant de 30 000 dollars au douanier, mais le douanier peut le faire passer. Donc, il faut relativiser les choses. C'est que il n'y a pas un salaire au monde, en ce qui concerne les douanes notamment, qui peut permettre de mettre à l'abri totalement un agent de douane. C'est ainsi qu'il y a des mécanismes qui existent, justement, au niveau des douanes, pour pousser, les agents de douane à ne pas tomber dans la fraude. C'est que si quelqu'un fraude, il y a une prime qui est prévue, une prime pour toute personne qui dénonce la fraude. Et cette prime est proportionnelle au montant de la fraude qui est mise en jeu. Ce qu'on appelle la prime d'aviseur pour les personnes qui ne sont pas les douaniers, mais il y a les primes pour verbalisateurs, en ce qui concerne les douanes, les douaniers, et des primes pour intervenants dans tout ce qui est procédé de recouvrement d'un dossier contentieux. Mais aussi par rapport au niveau des salaires. J'ai suivi M. Ernest dire que, par exemple, le directeur qui a été suspendu, il n'a que 80 000 francs. Ce n'est pas vrai, parce que, en dehors du salaire que le gouvernement paye, et là, je voudrais quand même plaider pour le compte du gouvernement pour dire que pour arriver à augmenter les salaires, c'est comme nous, la douane, pour arriver à augmenter les salaires, il faut que les recettes entrent dans le compte du Trésor. Il faut augmenter les recettes. Aujourd'hui, par exemple, on nous dit qu'il faut doubler les recettes. Évidemment, si on double les recettes, nous avons un mécanisme que nous avons chez nous à la douane, on parle de la rétrocession. Nous avons droit à 5% du montant des recettes. Donc, si nous doublons les recettes, automatiquement, la rétrocession double. Et cette rétrocession nous permet, notamment nous, au niveau de la douane, de payer des primes complémentaires par rapport au salaire que le gouvernement donne. Mais c'est vrai que d'une manière générale, la politique, même au niveau des régies financières, la politique de rémunération incombe au gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas augmenter les salaires si les recettes n'entrent pas. Donc, c'est un cercle vicieux qu'il faut casser. Et je pense que si les efforts que nous sont demandés sont effectivement réalisés en termes de mobilisation plus accrue de recettes, on peut améliorer les conditions salariales. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas pratiquer de la vertu sans un minimum de bien-être, mais il nous faut aussi conjuguer les efforts que le gouvernement nous demande pour arriver, n'est-ce pas, à augmenter les rémunérations et les conditions de travail.
Oui, monsieur Gabriel, nous pouvons vous libérer avec une toute petite question. Qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout au niveau de la DGDA, même au niveau du gouvernement, pour ne pas tomber dans le règlement des comptes, dans cette lutte contre la corruption?
Non, mais je pense que ce qui doit être fait, c'est recourir, n'est-ce pas, à des, comment dirais-je, à des enquêtes indépendantes. Quand, comme c'est le cas par exemple pour le Bas-Congo, on a trouvé que le volume a augmenté, mais les recettes ont baissé. Bon, je crois que le ministre des tutelles va prendre une équipe, par exemple des inspecteurs des finances, qui ne sont pas des douaniers, qui vont examiner de manière indépendante qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui explique cette contre-performance. Est-ce que c'est la contre-performance est liée à la fraude? Est-ce que c'est lié à autre chose? Est-ce qu'il y a des variables qui peuvent expliquer cette baisse des recettes? Et je pense que, mais aussi au niveau de la justice, comme vous le savez, en dehors des enquêtes qui se font sur le plan administratif, il y a des enquêtes qui peuvent se faire au niveau de la justice. là aussi, c'est la justice doit garantir une justice équitable pour Merci. Éviter qu'on puisse tomber dans des accusations qui n'ont aucun fondement.
Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mwepou, d'avoir accepté de commenter ce sujet avec les auditeurs de Radio Capi. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de la 2GDA. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons écouter Sylvain qui est à Kinshasa et Arsène qui est à Kikwit. Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez suivi comment nous avons dégagé depuis le début de cette émission les différentes pistes et solutions pour rendre la lutte contre la corruption efficace en RDC, en partant bien sûr de ce qui a été fait au niveau de la DGDA. Et pour vous, au-delà de ce que les autres ont déjà dit, quelles sont encore les procédures rigoureuses qui peuvent être mises en place dans cette politique de lutte contre la corruption?
Oui, merci pour l'opportunité. D'abord, par rapport à ce qui a été fait pour la DGDA à Matadi, ça, c'est bien sûr une goutte d'eau dans l'océan, et c'est même de la farce. Hein, pour ne pas passer longtemps dans ce que les amis ont déjà dit, je pense, moi, que le système tout entier est d'abord gangréné par la corruption à vivre, à lire aujourd'hui, doit être anéanti.
Ça veut dire quoi?
Ça signifie que l'exemple, lorsqu'il vient d'en haut, les gens suivent. Et j'ai comme impression que dans ces pays, pourquoi ça ne marche pas? Parce que la tête ne veut pas condamner le pied. Pourquoi? Parce que la tête elle-même connaît ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et elle n'a pas le temps de poursuivre ce qu'elle fait le pied. Je prends un exemple un peu concret. Vous avez un ministre, par exemple dans l'enseignement, parce que je suis dans l'enseignement, on a donné plusieurs fois l'argent aux écoles, et cet argent n'a rien fait, pas même des bancs dans certaines écoles, et très grave encore, pas même des livres, donc tout ce qu'on a donné, c'est parti. Alors, c'est facile de conclure que lui-même, le ministre, étant légitime, ainsi qu'il n'a pas le temps de poursuivre les chefs d'établissement. Donc, le système est très mauvais. Nous le déplorons, nous qui sommes jeunes, parce que jusque-là, on n'a pas 30 ans de vie. Mais nous déplorons ce qui arrive, la corruption. Alors, pour répondre à cette situation et comment mettre terme, je pense que le service, l'invité qui est là, lui, comme chargé de lutte contre la fraude et la corruption, leur service doit travailler en condense avec la justice. Je prends l'opération Épervier qui a été déclenchée au Cameroun. Il y a des ministres qui sont en prison. Il y a des secrétaires de la République. Il y a de nombreuses personnalités incriminées qui se retrouvent dans la prison. Combien sont chez nous en prison? Non, mais on arrête pour des besoins thérapeutiques. Mais quand il s'agit de détournement, on ferme l'œil. Prenez le gouvernement de Mozito. Combien les gens ont fait? Combien les gens ont détourné? Et est-ce qu'ils sont inquiétés? Donc, quand ils ont réuni les éléments, qu'ils ne puissent pas tâtonner et déférer ces gens-là dans la justice. Aujourd'hui, on dit que le DGDA, l'homme-là, le directeur-là, est suspendu. Mais, finalement, donc après, il va reprendre son travail. Et c'est comme s'il n'est pas du tout inquiété, parce qu'il a détourné, on ne sait pas combien il a eu. Donc, c'est une façon d'encourager, quand on ne sanctionne pas, quand on n'inquiète pas. Donc, la meilleure chose, c'est de sanctionner. J'appelle notre justice à plus de responsabilités.
Voilà, oui, besoin... Sylvain, pour permettre à Arsène et d'autres personnes qui sont encore nombreux à pouvoir intervenir, nous revenons à ce que vous avez dit. Vous avez travaillé dans l'enseignement, vous avez dit l'argent donné aux écoles et rien n'a été fait, pas de manuel, pas de banc, tout ça. Mais vous êtes dans le secteur. Quelle a été votre part des responsabilités? Est-ce que vous avez dénoncé, pour dire quelque part, dénoncé qu'effectivement l'argent perçu n'a jamais été utilisé? Parce que vous avez quand même les mécanismes au niveau des écoles, il y a les comités des parents, il y a les comités de gestion dans lesquels vous pouvez dénoncer le fait que les responsables des écoles aient détourné l'argent destiné au fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu, y a-t-il eu de telles actions? Parce que si peut-être que nous tous nous croisons les bras, nous attendons qu'on lutte contre la corruption, ça risque de ne plus marcher. Oui, Sylvain. Dommage, on a perdu Sylvain. On allait le relancer par rapport à l'exemple qu'il a donné au niveau des écoles, mais dommage qu'il est déjà parti. Merci beaucoup à Sylvain de Kinshasa. Nous avons Arsène qui est ici, qui est à Kikuta. Arsène, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et vous avez suivi les uns et les autres. Comment rendre la lutte contre la corruption plus efficace, partant bien sûr des exemples de ce qui a été fait au niveau de la DGDA?
Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Je vais d'abord répondre à la question que vous avez voulu poser à Sylvain, mon prédécesseur. Mm-hmm. Je crois que la dénonciation, à mon avis, le fait que déjà nous participions dans des émissions comme ça, et ça fait déjà une grande part des responsabilités qui nous incombent pour dénoncer, ne fût-ce que sur les ondes. Je crois que les magistrats que nous avons ici dans notre nation ont assez de compétences pour récupérer ce que nous disons et les mettre en pratique. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à Matadi, moi je crois que nous ne pouvons pas accepter vivre de diversion en diversion. Le problème est presque global. Une fois, je crois que le monsieur de l'ICOCO, qui est avec nous aujourd'hui, je crois que c'est la même personne avec qui on a débattu une fois. Moi, j'ai parlé de ceci. Si on ne sait pas contrôler les contrôleurs qui doivent contrôler ceux qui doivent contrôler, ça devient tout un problème. Le grand contrôleur, c'est qui? C'est la population congolaise. Et quand la population congolaise est en train de définir que ça ne marche pas, ça veut dire que tout est déjà dénoncé. Mmh. Et il y a des services compétents qui sont responsabilisés à faire ces histoires. Bah, je poserai un peu la question. Est-ce que, peut-être parce que j'ai pas assez d'expérience dans la méthodologie judiciaire, si un procureur ou un magistrat entend ne fût-ce que par la radio qu'il y a un citoyen congolais qui revendique quelque chose, est-ce qu'il n'est pas de droit qu'il puisse prendre l'affaire, essayer d'enquêter là-dessus, puis en fait de définir si cette histoire est réelle ou pas? Là, c'est une question, ma préoccupation. Mm-hmm. Mais pour la solution, moi je crois la meilleure solution, c'est la vérité. Quand il y a la vérité entre nous, Congolais, quand nous nous disons la vérité, je crois que nous allons tout droit vers la solution des plusieurs problèmes. Qui a volé quoi? Qui a triché où? Qui a fait quoi? Et on se le dit en mm-hmm. face. Et on se pardonne, et on prend une nouvelle ligne de conduite. L'éthique politique, chez nous, ça n'existe pas. La corruption est devenue tout un système où chacun protège son ami, et tout, ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est clair, c'est pas quelque chose qu'on doit chercher à se cacher derrière du débat scientifique.
Voilà,
c'est
merci.
Quelque chose qui est réel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Arsène. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Et nous allons demander aussi à notre invité si le fait qu'on puisse dénoncer une corruption ou un détournement dans le média, le magistrat, ont-ils le droit de se saisir de ces dossiers pour mener les enquêtes et arriver à conclure effectivement s'il y a un cas de corruption, de détournement et pouvoir poursuivre ceux qui sont concernés. Nous avons le deux derniers auditeurs, c'est Honorable Omer qui est à Mouni-Ditou et Marc qui est à Paris. On vous donne la parole rapidement, Ernest Impara. Vous avez suivi cette proposition, cette inquiétude d'Arsène. Y a-t-il moyen que, en dénonçant par des rapports ou comme par médias interposés, le magistrat peut-il se saisir d'un dossier et poursuivre, mener des enquêtes pour poursuivre quelqu'un?
Effectivement, c'est vrai. Et le procureur général, selon la procédure judiciaire, il a l'action de la plénitude pénale. Il peut ouvrir une action à tout moment, mm-hmm. par voie des ondes, par écrit ou par déclaration seulement. Lorsque une personne déclare, dénonce à travers les ondes, directement, le procureur général, il peut ouvrir une action un dossier judiciaire. Mmh. Et les enquêtes, maintenant, le grand problème, c'est quoi au niveau du parquet? C'est que les parquets n'ont pas de moyens d'investigation. Ils n'ont pas de moyens financiers, ils n'ont pas de moyens matériels. Même les renforcements de capacité pour les OPJ qui doivent mener les enquêtes, tout cela,
ça
pose problème.
On va écouter les deux derniers auditeurs revenir à vous pour la conclusion. Honorable Omer, vous êtes à Mouni-Ditou au Kassa Oriental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
En deux minutes, rapidement, pour vous, quelle peut être l'action à mener d'une manière plus efficace pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC?
Franchement, pour réagir avec l'idée qui était sur le plateau tout de suite là, qui concerne le ministère public, c'est-à-dire le parquet, moi je trouve que, à leur niveau, le magistrat n'a pas de limite. Ils doivent être d'abord des gens soupçonneux, c'est-à-dire ils voient quelque chose qui se pointe à l'horizon, qui cadre avec la corruption ou la confiscation ou les détournements,
mm-hmm.
les magistrats ont le droit d'aller faire l'enquête. Les magistrats ont le droit d'entrer partout et faire l'enquête. Et quand les magistrats vont faire l'enquête, à ce moment-là, la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, je préfère que les conditions de vie des magistrats eux-mêmes soient d'abord bien améliorées.
Mm-hmm.
Très bien améliorées. De façon que les magistrats lui-même, en faisant l'enquête, ne puissent pas aller tomber dans le même cas. Donc, avec cette histoire des chaînes de corruption, parce que celui-ci détourne ici, il va faire ce qu'on appelle la rétrocession. Il va de son chef donne à son chef, le chef donne à son chef, jusqu'à une certaine hiérarchie. Comprenez que c'est un système qui va nous demander trop. Et je veux, d'une autre façon aussi, voir les législateurs. Le système que nous avons ici chez nous au Congo, je trouve que l'impunité est à outrance. L'impunité est à outrance.
Mm-hmm.
Si on prend les pénalités dures pour un détourneur, pour un corrupteur, des pénalités dures, on renforce la loi pénale congolaise. Et quelqu'un qui fait qu'il puisse détourner, si je suis corrompu et si je fais la confession, j'aurai une punition qui va même me coûter ma vie. Je pense que les gens doivent se rétablir.
Merci.
Améliorer la condition sociale de la population et renforcer la loi pénale congolaise.
Merci, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, honorable Omer. On n'a plus beaucoup de temps. Vous avez insisté sur le renforcement de la sanction pénale, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population et des magistrats. On écoute rapidement Marc, qui nous appelle de Paris, en France. Bonjour, Marc.
Merci.
Marc, vous êtes avec nous. Bonjour. Marc, bonjour. Ah, on a des petits soucis avec Marc, qui est à Paris. Il est en ligne. Marc, vous êtes avec nous? Voilà, apparemment, c'est Marc Seri a distrait sur sa ligne. La réalisation tente de pouvoir le recontacter et voir comment on peut l'écouter avant de donner la parole à notre invité pour conclure cette émission. Marc, vous êtes avec nous? Désolé qu'on a perdu Marc de Paris. Je rappelle que nous étions ensemble avec vous autour de la lutte contre la corruption. Un directeur provincial de la DGDA au Bas-Congo suspendu. Une soixantaine d'agents qui doivent être mutés pour raison de contre-performance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus efficace la lutte contre la corruption? Est-ce que tout cela peut contribuer à cela? C'était ça le sujet au centre de notre émission. On a eu dans cette émission M. Gabriel Mouipou, directeur général adjoint de la DGDA, mais nous sommes avec vous, Ernest Imparo. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Il y a notre presque dernier auditeur, Omer de Bonneduc, qui a dit qu'il n'y a pas de limite pour les magistrats. Ils ont droit, ils doivent être même soupçonneux quand ils entendent parler ou ils trouvent que dans le milieu, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cadre avec la corruption, qui ça peut être l'enrichissement illicite. Ils ont le droit de pouvoir mener les enquêtes, mais là, il se pose aussi un problème de leurs conditions de vie. Mais d'une manière globale, y a-t-il aujourd'hui, entre la société civile et le pouvoir public, un agenda, un chronogramme, ou soit on peut dire un vade-mecum de lutte contre la corruption?
Oui, effectivement, il y a 3 ans de cela, nous étions au Forum national de lutte contre la corruption, où nous avions travaillé ensemble en tripartite, le secteur privé, le gouvernement, la société civile. Et de là, nous avions pris des résolutions, mais la mise en application de ces résolutions tarde à venir. Secondo, vous vous souvenez, la RDC a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et dans cette convention, la RDC a des obligations de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies dans notre droit interne. Nous y travaillons avec les ministères de la Justice. On essaie un peu de les approcher pour savoir, par exemple, au chapitre 3, la répression, la sanction et l'incrimination, qu'est-ce que le gouvernement fait. Et d'ici l'année prochaine, il y aura une évaluation sur la mise en œuvre par la RDC de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Mais revenons aux recommandations du forum. Vous dites qu'il y a 3 ans, mais la mise en œuvre, puis la mise en pratique de ces recommandations tarde. C'est à quel niveau où se trouve le problème? C'est un problème de volonté au niveau il y a eu 3 partenaires, vous, le pouvoir public et les privés. Mais à quel niveau ça se bloque pour qu'on puisse mettre en pratique ce qui a été recommandé au niveau de ces forums?
En fait, le problème, c'est au niveau du gouvernement. Dans le gouvernement Mouzito, c'était au ministère de la de l'Intérieur et au ministère de la Justice qu'on avait responsabilisé de mettre en œuvre les résolutions du Forum national de lutte contre la corruption. Et pendant tout ce temps, il y a eu des problèmes, des conflits à l'Est, des problèmes en Bandak avec les Agnellés, ce qui a fait que le gouvernement était plus attentionné à ces problèmes, à ces conflits, que au problème de la mise en œuvre des résolutions du Forum. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre dynamique, c'est que la RDC, depuis 2010, la RDC a ratifié la convention, et dans cette convention, la RDC a des obligations. Et l'année prochaine, en 2014, la RDC sera évaluée sur la mise en œuvre de cette convention par rapport à nos lois internes. Par exemple, les équipes de d'autres États viendront ici, ils vont rencontrer le gouvernement, ils vont nous rencontrer pour leur donner des informations sur la mise en œuvre. Mais, cela étant, nous, au niveau de la LICOCO, au niveau de la société civile, nous disons que la lutte contre la corruption doit venir d'abord du chef de l'État. Et lorsqu'il avait pris la décision de mettre en place la tolérance zéro, vous vous souvenez, la tolérance zéro, il y a eu beaucoup de dossiers qui avaient été traités, d'autres avaient été transférés auprès de cours et tribunaux, mais avant les élections, on a suspendu les travaux de cette commission jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que nous demandons à travers cette radio que cette commission tolérance zéro puisse aussi être redynamisée. Et cela étant, nous disons que la lutte contre la corruption, c'est d'abord une affaire de l'État, et l'État doit y mettre et doit s'impliquer. Merci beaucoup.
Merci bien, Monsieur Ernest Empararo, d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets avec les auditeurs de Radio Capi. Et nous disons aussi merci à Monsieur Gabriel Mwepo de la DGDIA qui a été avec nous pour plus d'éclairage par rapport à ce qui s'est fait au Bas-Congo. On va se retrouver demain, vendredi, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. L'accès à l'énergie électrique reste encore une grande préoccupation pour la majorité des Congolais. Le taux de desserte en électricité est encore de moins de 19% pour l'ensemble du pays. Au vu des difficultés que rencontre la Société nationale d'électricité, plusieurs personnes recommandent de recourir aux énergies renouvelables pour accroître les taux de desserte en électricité. Que pensez-vous de cette proposition? On se retrouve demain vendredi à 11h03, heure de Kinshasa. Au revoir.